Chapitre 8. L'amour au village. Jeannette passa la nuit dans la maison et, le lendemain matin, elle repartit seule pour la ferme, comblée des caresses et des bienfaits de Rosalie, qui l'aimait, au fond, et l'estimait beaucoup. Madame d'Hérenville voulut garder encore Cécile avec elle quelque temps. On était dans le mois de janvier. L'hiver était doux, mais Rosalie voulait laisser passer 2 mois encore avant de confier sa fille dans une campagne, séjour toujours triste dans cette saison. Pour Jeannette, amie du repos et de la solitude, elle ne fut pas fâchée de quitter la capitale. Dans ce moment de trouble, Paris n'était hérissé que de bataillons. Tous les matins, on était éveillé par le bruit du tambour et tous les Parisiens ne rêvaient qu'uniformes, fusils et évolutions militaires. Jeannette retourna à la bergerie dans l'espoir d'y retrouver la tranquillité. Le jeune Richard attendait son retour avec la plus vive impatience. Il aimait Jeannette et savait que c'était à son occasion que Madame d'Hérenville avait mandé cette jeune personne à Paris. Jeannette sonne à la porte de la ferme. Le père Richard vient ouvrir. « Qu'est-ce, mon père ? » s'écrie le jeune homme qui est occupé dans la ferme à quelques travaux. « Pierre, répond le père, accours donc, viens donc vite, c'est mademoiselle Jeannette qui revient de Paris. »« Eh bien, mademoiselle, qui dit-on? Qui fait-on? Y a-t-il toujours bien du bruit? Y est-on tranquille ?» Les questions multipliées du père Richard sont interrompues par l'arrivée de son fils qui vient aider Jeannette à transporter dans la maison quelques petits paquets dont sa voiture était garnie. Jeannette répond, en souriant, au père, qu'elle n'entend rien aux affaires sur lesquelles il interroge, et elle suit le jeune Richard, qui, pâle et tremblant, va porter les effets dont il s'est chargé jusqu'à l'appartement de Jeannette. Là, seul avec elle, il reste debout, les mains croisées sur son estomac, dans l'attitude silencieuse d'un homme qui attend une bonne ou une mauvaise nouvelle. Jeannette le regarde, voit son embarras qui l'affecte et elle se tait. Le jeune Richard rompt à la fin ce silence. « Mademoiselle, lui dit-il avec un ricanement forcé, comment se porte notre bonne maîtresse ?»« Très bien, Richard. »« Et notre bon maître ?»« Bien aussi. » »« Et mademoiselle Cécile ?»« Tout le monde jouit d'une bonne santé. » »« Ah ! » !»« Silence. » Il n'y a donc que moi de malade. Vous, Richard, et qu'avez-vous? Vous pouvez le demander, mademoiselle Jeannette, quand vous me regardez d'un air froid et glacé qui me tue. Moi? Il me semble, Pierre, que je vous regarde comme à mon ordinaire. Et voilà ce qui me fait de la peine. On ne vous a donc rien dit de moi, cruelle fille. Je vois que vous vous taisez. Pardonnez-moi, Pierre, on m'a parlé de vous. On a dit que vous aviez la bonté de m'estimer. Vraiment, on vous a dit que j'avais cette bonté-là, mais c'est la bonté de tout le monde, ça. Tout le monde vous estime, et moi, je fais plus que tout le monde, je vous aime. Vous m'aimez? Ah, Richard, pourquoi faut-il que votre affection se soit si mal placée? Vous ne m'aimez donc pas? Vous ne méritez pas d'être haï, mais... « Eh bien, mademoiselle, l'amour et l'hymen sont bien loin de mon cœur et de mes vœux. Ainsi, tenez, Richard, lisez cette lettre que Madame d'Hérenville m'a remise pour vous. Que va-t-elle m'apprendre ?» Richard prend la lettre en tremblant, il la décachette et la lit en s'interrompant de la manière suivante. « Je t'avais promis, Richard, de parler pour toi, Jeannette. » « Oh oui, elle me l'avait promis avec une bonté. » Je l'ai fait et je lui ai proposé ta main en l'assurant que tu l'aimais. Que je l'adorais, voilà ce qu'il fallait dire. Elle m'a écouté avec attention. Avec attention? Ah bon, voyons. Elle m'a écouté avec attention et m'a remercié en me témoignant sa reconnaissance, mais... Ah, voilà le mais fatal. Mais je suis fâchée de t'apprendre, mon pauvre garçon, qu'elle te refuse. Elle me refuse, je n'ai pas besoin d'en lire davantage. Richard met la lettre dans sa poche et veut sortir. Jeannette l'arrête, Jeannette le presse d'achever sa lecture. « Vous verrez, lui dit-elle, les motifs. » « Et quels motifs, mademoiselle? Quelque puissants qu'ils soient, m'empêcheront-ils de mourir d'une pareille cruauté ?» Richard essuie quelques larmes qui tombent de ses yeux, puis il reprend la lettre et continue. « Qu'elle te refuse, elle est pénétrée d'estime pour toi, elle apprécie l'honneur que tu lui fais. » Il hausse les épaules. « Je puis te jurer aussi que son cœur ne s'est donné à personne. » « Cela est-il bien sûr? Je n'ose le croire. » Mais elle renonce au mariage, à l'amour, à toutes les affections du cœur, pour n'en conserver qu'une seule, celle de nous chérir jusqu'à la mort, celle de nous dévouer son existence. Prends ton parti, mon pauvre Richard, et renonce à tes projets sur Jeannette. Pour te consoler de sa perte... Te consoler? Madame croit qu'on se console comme cela de nos si grands malheurs? Voyons donc ce qu'elle me promet pour me consoler. Pour te consoler de sa perte, je te ferai épouser une de mes filleules, bonne fille, assez jolie, et je doublerai pour elle la dot que j'avais promise à Jeannette. Rosalie d'Héranville. Voilà une belle proposition. Est-ce que toutes les filleules de madame vous valent, mademoiselle? Est-ce que toutes les dots possibles peuvent t'empêcher d'aimer une personne aussi accomplie que vous l'êtes? Oh mon Dieu, que je suis malheureux! Jeannette voulut calmer la douleur de ce pauvre garçon, cela lui fut impossible. Richard sortit précipitamment et, le lendemain, on apprit qu'il s'était engagé dans une compagnie de chasseurs qui venait de partir et de l'emmener avec elle. Si son vieux père fut inconsolable de ce départ précipité, Jeannette n'en ressentit pas moins de douleur. Elle s'accusa de cet acte de désespoir et regretta même de n'avoir pas fait le bonheur de ce jeune homme de qui elle était si tendrement aimée. Cet événement lui fit éprouver un chagrin qui ajouta sa mélancolie. Et sans la bonne et franche amitié de la sœur Émilie, qui venait de temps en temps la voir à la dérobée, elle aurait passé le reste de l'hiver dans une tristesse qui aurait pu altérer sa santé. Vers le mois de mars 1790, Jeannette fut mandée à Paris chez Madame d'Héranville, qui l'accabla d'amitié et de caresses. Le malheur commençait à peser sur cette famille, dont des brigands sans aveu et sous l'apparence de cohorte populaire avaient pillé presque toutes les propriétés de la province. D'Héranville, livré au plus sombre désespoir, ne pouvait se consoler dans la douce société de sa femme et de sa fille. Il méditait de sinistres projets, et la douleur et la tristesse avaient remplacé la paix et la sérénité qui, naguère, régnaient dans ce paisible intérieur. Madame d'Héranville, pour distraire son époux de ses chagrins, voulait l'emmener à la campagne. Elle ne put les déterminer, et craignant de le laisser seul, en butte aux troubles qui agitaient la capitale, elle persistait dans ses projets de rester près de lui et de confier aux soins de Jeannette, sa fille, dont l'innocence et la tranquillité couraient les plus grands dangers, au milieu d'une ville dont tous les habitants étaient soldats. C'était sans doute une terreur panique, mais le lecteur sait que Rosalie était dévote, remplie de préjugés, et que les moindres événements ajoutaient à l'exagération de ses idées mystiques. Jeannette fut donc chargée d'emmener Cécile à la ferme et de la veiller comme une seconde mère. Quel bonheur pour Jeannette et pour Cécile, qui avaient le cœur le plus doux et le plus aimant. Ces deux amies se serrèrent dans les bras l'une de l'autre, embrassèrent leurs parents, leurs bienfaiteurs, et partirent en se promettant l'avenir le plus heureux. Arrivées à la bergerie, Cécile et Jeannette voulurent habiter la même chambre et ne se quittèrent plus. Tableau touchant de l'amitié qui les unissait pour la vie et qui devait un jour exiger des sacrifices bien douloureux pour le bonheur commun de ces deux cœurs formés l'un pour l'autre. Dès lors, le séjour de la ferme s'embellit. Tout y devint riant, aimable, et les oiseaux même semblèrent s'y fixer, comme dans un lieu plus propre au champ de leur félicité. Une bibliothèque choisie était dans une des chambres de la petite maison de maître. Cécile y avait fait transporter son piano, et ses deux amis passaient leur temps soit à des promenades champêtres, soit à lire ou à faire de la musique. Pauvres habitants de Sèvres et de Meudon, Vous vous rappellerez longtemps les visites hospitalières de ces deux anges de consolation. Vous, que la misère et les maux du corps retenaient enchaînés sur le grabat de la détresse et de la mort, vous voyez encore, n'est-ce pas, Cécile et Jeannette vous apporter le consommé, les drogues faites de leurs belles mains. Et vos enfants vous ont dévoilé les cadeaux d'argent qu'ils recevaient pour vous aider, et à votre insu, tant ces aimables personnes craignaient de blesser votre délicatesse. Pas un infortuné dans le voisinage dont elle n'ait essuyé les larmes, pas un indigent dont elle n'ait adouci la misère. Hélas, que n'ont-elles pu vivre longtemps dans ce lieu où elles étaient si utiles? Et pourquoi la fortune leur a-t-elle retiré les moyens de faire du bien ?